J'aimerais mettre toutes les chances de mon côté pour un jour avoir le choix d'avoir un enfant ou pas. Depuis que j'ai décidé de faire congeler mes ovocytes, eh bien, je me sens déjà mieux et j'ai fêté mes 38 ans. Et je crois que sans ça, je n'aurais jamais fait de fête. Je pense que je serais allée m'enfermer chez moi et j'aurais attendu que ça passe.
Comme Anne-Sophie, plus d'un millier de Françaises se rendent chaque année en Belgique, en Espagne ou dans d'autres pays européens pour congeler leurs ovocytes. Ces femmes, très majoritairement célibataires, souhaitent ainsi préserver leur fertilité en attendant de rencontrer le futur père de leurs enfants. Elles ont souvent le même profil, elles sont diplômées et viennent d'un milieu plutôt aisé. Il faut débourser au minimum 2500 euros pour faire vitrifier ces ovocytes.
C'est un combat contre le déclin de la fertilité et donc contre le diktat de l'horloge biologique.
L'autoconservation des ovocytes est actuellement autorisée en France, mais uniquement pour les femmes qui ont des problèmes de fertilité ou qui suivent un traitement médical lourd. Mais cela va bientôt changer, car dans le cadre du projet de loi sur l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, le gouvernement souhaite aussi autoriser la congélation des ovocytes. Le texte sera soumis au vote des députés d'ici l'été prochain. Si les médecins y sont en grande partie favorables, beaucoup soulignent quand même que la congélation des ovocytes n'est pas une assurance bébé infaillible.
La raison pour laquelle c'est pas très fiable, c'est qu'un ovocyte dans notre laboratoire, c'est 4,5% de chance d'avoir un bébé.
D'un point de vue éthique, des élus s'interrogent aussi. Ne risque-t-on pas d'arriver à certaines extrémités, comme aux États-Unis, où des grands groupes subventionnent la congélation des ovocytes de leurs salariés pour qu'elles puissent se consacrer à leur carrière? Le débat est ouvert. Faustine Calmel a suivi une Française de 38 ans dans son périple en Espagne. Congélation d'ovocytes, un bébé pour plus tard. Voici son reportage.
France Inter, Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Rendez-vous avec le docteur Nakache.
Je vais prendre votre ordonnance carte vitale.
On est dans un centre d'imagerie médicale au nord de Paris. C'est ici qu'on a retrouvé celle qu'on appellera Anne-Sophie parce qu'elle préfère qu'on ne donne pas son nom. Elle a 38 ans et elle a décidé de faire congeler ses ovocytes.
Je rends votre carte vitale, je vous laisse patienter en salle d'attente, madame.
Merci. Donc on est venu faire la première échographie de mon cycle. Qui va indiquer à la clinique que j'ai contacté à Madrid si oui ou non le processus de vitrification peut être fait sur ce cycle-là. Donc l'idée c'est de voir s'il y a des kystes, si j'ai bien compris, des fibromes, ce genre de choses qui pourraient indiquer que c'est pas du tout le bon moment. A priori, là j'attends les résultats, mais le médecin qui m'a ausculté me disait que tout était normal. Et il avait plutôt l'air optimiste, puisqu'il m'a demandé mon âge, et quand je lui ai donné, il avait l'air d'être plutôt agréablement surpris. Donc voilà, donc il y a plein de follicules. J'avoue que je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais ça avait l'air d'être plutôt bon signe. Donc je vais envoyer tous ces résultats à la clinique, et puis en fonction, ils vont me dire quand est-ce que je dois commencer un traitement hormonal assez lourd.
Vous vous sentez comment, là ?
Je suis un peu stressée. Je suis un peu stressée parce que voilà, j'aimerais bien que les résultats soient satisfaisants, au moins pour entamer le processus. J'aimerais pas avoir à le repousser au mois prochain ou au mois suivant. Je trouve que c'est compliqué. C'est compliqué de gérer ces rendez-vous-là avec le boulot. Tout complique le quotidien, ça c'est sûr.
Vous avez la vessie pleine ou vide ?
Vide.
Très bien.
C'est les résultats de l'échographie pelvienne. Donc là, qu'est-ce qu'ils mettent ? Pas d'épanchement dans le cul-de-sac de Douglas. Bon, là, je suppose que c'est super. Hein. Donc ça, je vais l'envoyer à la clinique, comme ça, ils me diront ce que ça leur inspire. Bonjour Nathalie. Est-il possible que
l'on m'appelle à, on va dire, 15h15 pour me préciser la marche à suivre cordialement. Voilà, donc ça c'est envoyé à la clinique. 11h46, bon ben moi il faut que j'aille bosser là. Je suis déjà super à la bourre. Je change de prendre un
taxi. On se retrouve tout à l'heure ?
Ouais, 15h15.
Tout à l'heure. Bonne journée.
Donc, je m'appelle Anne-Sophie, je suis célibataire, je viens juste d'avoir 38 ans. J'aimerais mettre toutes les chances de mon côté pour un jour avoir le choix d'avoir un enfant ou pas. J'aimerais prendre le temps de trouver le partenaire idéal. Pour l'instant, j'ai jamais eu envie de m'engager à ce point avec quelqu'un. Donc voilà, je sais pas quand est-ce que la rencontre, cette rencontre-là arrivera. Et si elle arrive tard, je veux pas rater... cette étape, et oui, je veux continuer à avoir au moins un bout de temps le choix d'envisager de faire un enfant ou pas.
Comment vous avez entendu parler de cette possibilité ?
Alors, c'est une amie qui m'en a parlé, ça fait déjà maintenant 5 ans. Elle avait vécu en Californie, et là-bas, elle s'était rendue compte que, à l'âge de 35 ans à peu près, la plupart des femmes qui travaillaient autour d'elle avaient le réflexe d'aller faire congeler leurs ovocytes, qu'elles soient en couple ou pas d'ailleurs. En prévision, peut-être d'une carrière ou j'en sais rien, d'autres histoires sentimentales. Finalement, elle s'était rendue compte qu'aux États-Unis, c'était assez simple de le faire. Elle n'a pas pensé à le faire pour elle. Et finalement, quand elle est rentrée en France quelques années après, elle s'est rendue compte que oui, ça pouvait être intéressant, elle-même se retrouvant célibataire à 40 ans. Et en revanche, elle s'est rendue compte que c'était beaucoup plus compliqué, évidemment, qu'aux États-Unis, parce qu'il fallait partir à l'étranger. C'était beaucoup d'argent et c'était pas du tout la même démarche. Donc elle l'a faite à l'âge de 40 ans. Et à l'époque, elle me disait, donc j'en avais 35, qu'il était temps pour moi de le faire, mais vraiment à ce moment-là, j'envisageais pas du tout. Je pensais avoir toute la vie devant moi. Je n'étais pas célibataire à l'époque. Ça me paraissait être très loin. Et je me disais toujours, elle a 5 ans de plus que moi. On n'est pas du tout dans la même situation. Sa démarche peut pas être la mienne. C'est pas possible. Et finalement, je suis retournée la voir en lui disant, écoute, maintenant ça y est, je suis prête à écouter ton histoire, raconte-moi comment ça s'est passé. Et donc c'est elle qui m'a parlé d'une association qui justement aidait les femmes à faire leur choix dans leur processus de PMA. Donc j'ai appelé cette association qui m'a donné toute une liste de cliniques avec lesquelles ils avaient l'habitude de travailler. J'en ai appelé plusieurs. Et il se trouve que celle que j'ai choisie à Madrid me permettait d'être en contact avec un interlocuteur totalement francophone. Je crois que tout de suite, je me suis dit, au moins, là, c'est simple. C'est comme si tout d'un coup, j'avais pris conscience que je vieillissais. Je me suis rendu compte que plus ça allait, plus je redoutais mes 38 ans. Je commençais à faire des calculs en me disant, alors, je vais avoir 38 ans. Si à 38 ans, je mets un petit peu de temps à rencontrer quelqu'un, que j'ai envie d'en profiter. Enfin, je faisais des calculs qui m'amenaient toujours à... l'éventualité d'un enfant à 41, 42 ans. Et je me disais, mais est-ce que vraiment j'arriverai encore naturellement à faire un bébé à cet âge-là ? Donc voilà, quand cette amie m'a reparlé de ce processus-là, j'ai eu l'impression qu'au moins je prenais les choses en main. Ça me permettait d'agir, d'être dans l'action et ne pas subir. Une forme d'urgence, en fait, qui me dépasse un peu.
Vous êtes sûre de vouloir un enfant ?
Dans l'absolu, oui. Je m'imagine très bien maman. J'ai du mal à m'imaginer sans enfant. En revanche, pas dans n'importe quel cadre. C'est-à-dire qu'à la clinique, on m'a tout de suite demandé si c'était pour faire un enfant seul. Ça, par exemple, je l'imagine pas du tout.
Est-ce que cette angoisse dont vous parliez, qui est liée à l'horloge biologique, finalement, elle change quelque chose dans vos relations amoureuses ?
Non. Ça n'a pas encore été le cas. Mais par contre, je le redoute. C'est-à-dire que là, si je me projette dans l'avenir, je sens que ça pourrait être un problème, oui. L'urgence d'être sûr de son choix par rapport à son partenaire, pas pouvoir juste profiter d'une rencontre et assez vite amener le sujet sur le tapis, alors que je n'en suis pas très sûre ou que l'autre n'est pas très sûr. Non, je devance plutôt justement cette urgence dans une rencontre.
Faire cette congélation, c'est se libérer de ce poids-là ?
Ouais. Après, c'est pas dit que ça marche, mais Depuis que j'ai décidé de faire congeler mes ovocytes, eh bien, je me sens déjà mieux et j'ai fêté mes 38 ans, ce que je ne comptais pas du tout faire quelques temps avant. Je pense que je serais allée m'enfermer chez moi et j'aurais attendu que ça passe.
Ces femmes qui sont obligées de partir à l'étranger pour faire congeler leurs ovocytes. Le professeur Michael Greenberg les voit parfois passer dans son cabinet. Il est gynécologue obstétricien, chef du service de médecine de la reproduction et de préservation de la fertilité à l'hôpital Antoine Béclair à Clamart dans les Hauts-de-Seine.
La congélation, que ce soit d'ovocytes ou de spermatozoïdes, aujourd'hui dans le cadre français, ça ne peut se faire que quand il y a des indications médicales, quand il y a une pathologie qui justifie de devoir mettre de côté des gamètes pour une utilisation ultérieure. Si jamais ces gamètes devaient amener à être prématurément détruites à cause d'une maladie spécifique ou des traitements qu'induirait cette maladie.
Aujourd'hui, il est question de légaliser cette congélation d'ovocytes en France et de l'ouvrir à toutes les femmes. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui serait utile aujourd'hui dans notre société française actuelle ?
Alors oui, ça me paraît être absolument indispensable d'arrêter d'interdire l'autoconservation pour les femmes qui veulent le faire sans avoir un motif médical précisément. Une femme qui connaît les problématiques dont nous, médecins de la reproduction, passons notre temps à se plaindre, puisque on dit en permanence que les femmes ne sont pas suffisamment au fait de la compréhension de l'horloge biologique, et de se dire qu'elles ont une fenêtre de fertilité qui est très restreinte et qui fait qu'après 35 ans, nos techniques commencent à marcher de moins en moins bien. Donc on se retrouve à de prendre en charge des femmes de plus en plus âgées pour lesquelles on n'a pas de technique optimale parce qu'on ne sait pas faire rajeunir ces ovocytes. Aujourd'hui, en revanche, on a des techniques qui permettent de figer le temps en les congelant à un âge où on est dans son pic de fertilité, par exemple, pour se dire que cette femme-là, si elle en a besoin, pourra avoir la possibilité de faire une fécondation in vitro avec des chances optimales de succès. Alors que si elle le fait à 39, 40, 41, 42 ans, eh bien cette femme-là, si on le fait avec des ovules frais de 41, 42 ans, eh bien se retrouvera avec des chances de succès qui ne dépasseront pas les 10%. Si on fait un parallèle avec ce qui se fait dans d'autres disciplines, la chirurgie esthétique par exemple, quand une femme veut y avoir recours, on ne lui interdit pas de le faire. La sécurité sociale en général ne prend pas en charge parce qu'elle considère que c'est un confort. À la limite, on peut faire ça pour la congélation d'ovocytes, mais en tout cas, ne l'interdisons pas. Arrêtons d'empêcher les médecins et les patientes d'avoir recours à ça ou alors de devoir aller à l'étranger pour pouvoir en bénéficier.
Quel serait l'âge idéal ou la tranche d'âge idéale pour congeler ces ovocytes ?
Le meilleur moment pour congeler des ovocytes reste avant 35 ans et je dirais la fenêtre entre 31, 32 et 35. Parce que le faire plus tôt, certes, on gardera une qualité qui sera sans doute très bonne, mais qui va très peu s'altérer entre 25 et 32, 33 ans. Globalement, on restera avec des très bonnes chances de succès. En revanche, à 25 ans, une femme qui se projette dans le fait d'être potentiellement célibataire et ne pas avoir trouvé son partenaire d'ici 10 ans, je pense que c'est un peu tôt.
Bah ça y est, c'est l'heure, 15h15. On retrouve Anne-Sophie au pied de son immeuble de bureau. On va aller prendre un café pour attendre le coup de fil de la clinique de Madrid. La personne qui est responsable de son dossier doit téléphoner à une heure bien précise pour lui dire ce qu'elle a pensé de l'échographie de ce matin. Allô ?
Allô, oui, bonjour, c'est Hélène de la clinique Procréatech.
Bonjour.
Je suis la collègue de Nathalie, bonjour. Alors, je vous appelle comme convenu pour vous dire que le médecin a revu votre échographie et tout est en ordre. Le docteur a dit que vous aviez une bonne réserve ovarienne et donc maintenant, il faudra voir effectivement combien de follicules vont se développer au cours de la stimulation.
Ok, très bien. Merci en tout cas d'avoir appelé à une heure bien précise pour l'organisation de ma journée. C'était vraiment primordial. Merci beaucoup. Au revoir. Bon, mais super. Donc ça veut dire qu'il y a un nouveau processus de stimulation qui va se mettre en place là.
Ça veut dire que je vais pouvoir commencer en fait tout le processus qu'on avait couché sur le papier. faut que je revoie ça, mais dans 5 jours, je vais avoir des injections d'hormones à me faire toute seule. Je crois qu'il y a carrément deux injections par jour, plus des cachets. Enfin voilà. Et après, il faut que je refasse des échographies pour voir l'évolution de la maturation, on va dire, des follicules, pour voir comment ils grossissent. Voilà.
Et on s'est retrouvé ici au pied de votre bureau parce qu'à votre bureau, c'était pas possible de l'avoir, ce coup de fil.
Alors, c'était compliqué de l'avoir au boulot. Je partage mon bureau avec un collègue avec qui j'ai pas du tout envie de partager les choses de ma vie privée.
Vous aviez envisagé d'en parler au travail ou pas du tout ?
J'avais envisagé d'en parler au boulot, vraiment en dernier recours, parce que comme je n'avais plus de congé pour les 3 jours et où je vais devoir m'absenter pour aller à Madrid, si je ne trouvais pas de médecin qui m'accompagne et donc qui me fasse un congé payé, je m'étais dit qu'au pire, j'irais effectivement voir ma responsable, lui parler de mon projet en espérant qu'elle soit suffisamment sensible pour m'avancer des jours de congé. Et puis finalement, entre-temps, je suis allée voir mon médecin généraliste et il a accepté de m'accompagner, donc de me signer un arrêt maladie pour ces 3 jours-là, de signer aussi des ordonnances pour les échographies, sinon elles auraient été à ma charge. C'était 130 € à chaque fois. Donc oui, j'ai la chance de tomber sur un médecin qui avait l'air compréhensif, qui a déjà suivi des patientes qui ont fait ce genre de choses. Et même, il m'a proposé de me montrer comment ça se passe pour les injections. Là aussi, j'ai hésité à faire appel à l'infirmerie de mon entreprise. Mais ça voulait dire pareil, raconter ma vie. Effectivement, j'avais pas tellement envie de tout mélanger.
Nous arrivons maintenant au cabinet du docteur Bernard Fonty. Il est gynécologue à Paris. Il est l'un de ces médecins qui accepte de suivre en France les femmes qui partent ensuite faire congeler leurs ovocytes à l'étranger.
Appel envoyé, parler après le bip.
Oui, bonjour, Christine Calmel de France Inter, j'ai rendez-vous.
Interception, le magazine de la rédaction.
Est-ce que vous avez souvent des demandes de femmes qui veulent congeler leurs ovocytes ou qui s'inquiètent de leur fertilité ?
Qui s'inquiètent de leur fertilité, maintenant ça commence à passer dans les mœurs, c'est-à-dire que les femmes sont beaucoup plus conscientes aujourd'hui qu'il y a 20 ans du fait que la fertilité diminue avec les années qui passent. Donc elles sont amenées à en parler et si elles n'en parlent pas, je suis amené à leur souligner ce que je dois dire, il y a 20 ans je n'osais pas faire. Maintenant, je suis peut-être un peu plus sûr de moi, mais enfin, j'ose leur dire qu'il faudrait, à partir de 35 ans, penser très sérieusement à mettre en route une grossesse, si c'est ça qu'elles souhaitent, parce que la fertilité diminue franchement à partir de 38 ans.
C'est quelque chose que vous évoquez avec elles, cette congélation des ovocytes, à partir de quel âge ?
Le plus souvent, c'est pas moi qui l'évoque, c'est elles qui l'évoquent. Parce qu'elles sont au courant que ça se fait. Bon, en même temps, j'ai ici une clientèle assez fortunée qui peut se permettre de l'envisager, alors que je pense que quelqu'un qui habite le 93 n'a pas cette possibilité-là. Donc, à la limite, il n'y a peut-être même jamais pensé. Ou n'a pas accès à cette information, bien sûr.
Vous leur proposez quoi, finalement, quand elles viennent avec ce projet ?
Ben, je leur propose étranger. Alors, en ce moment, ben, ceux avec qui je travaille, c'est l'équipe qui travaille à Barcelone, parce que ça, c'est tout à fait accessible. Enfin, accessible. Pas sur le plan financier, c'est facile à entreprendre.
Et vous, vous les accompagnez comment dans cette démarche, docteur Fonty ?
Ben d'abord, on parle des tenants et des aboutissants, on parle de ce qu'on va être obligé de faire chez cette femme, parce que pour congeler les ovocytes, il faut d'abord recueillir les ovocytes. Donc il faut stimuler l'ovulation et on sait que tel jour, à telle heure, on peut les ponctionner et on va l'envoyer en Espagne où aura lieu cette manœuvre.
Tout cela, ça nécessite d'abord un suivi en France avec des échographies, des ordonnances. Oui. Comment tout ça s'organise ?
Oui, ça nécessite tout ça. Normalement, on n'a pas tellement le droit. Ça pose une autre question, c'est à partir de quand on décidera que ces manœuvres seront remboursées par la Sécurité sociale ? Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est pas juste ? C'est un choix de vie. C'est un grand débat. Et je ne peux pas trancher.
Vous le dites, aujourd'hui, ça n'est pas autorisé en France, cette congélation des ovocytes. Vous, pour autant, vous le faites. Pourquoi ?
Parce que c'est la liberté des femmes. Enfin, je veux dire, c'est leur choix personnel. C'est le même débat qui s'est passé avec l'avortement, avec après maintenant le viol. Enfin, respectons un peu ces dames.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous arrangez pour que ce soit en partie remboursé et que ça leur coûte le moins cher possible ?
Ça leur coûte le moins cher possible, oui. Tous les protocoles pour stimulation de l'ovulation, ça coûte de l'argent. La surveillance échographique, ça coûte de l'argent. Bon, tout ça, actuellement, il suffit de dire qu'on est en train de traiter cette femme pour infertilité et ce sera pris en charge par la Sécurité sociale sans que personne se pose de questions.
Vous ne craignez pas, Bernard Fonty, d'avoir des poursuites ou des problèmes en accompagnant ces femmes dans ce processus ?
Je le crains un peu, mais en même temps, je m'en fiche un peu. Et à la limite, ce serait assez plaisant qu'on m'attaque là-dessus, parce que je pense que c'est très défendable. Donc, c'est la même chose qui se passe. Alors, c'est pas comparable, mais enfin, c'est dans le fonctionnement, dans l'illégalité, c'est la même chose que quand je faisais des avortements avant la loi. C'est que l'être humain, jusqu'à nouvel ordre, l'homo sapiens a le droit à disposer de son corps.
Dominique Maine ? Oui, bonjour, c'est Faustine Calmel de France Inter. On est au numéro 8, c'est bien là ? Ok, à tout de suite. Nous sommes arrivés chez vous, Dominique Mel. Vous êtes donc sociologue et directrice de recherche au CNRS et vous étudiez les questions de procréation médicalement assistée depuis 30 ans. Vous vous êtes intéressée à ces femmes qui partent à l'étranger pour faire congeler leurs ovocytes. Qui sont-elles ?
Ce sont des femmes qui ont au moins 35 ans, qui à partir de 35 ans sont sans conjoint et sans enfant. Et se pose la question de la réalisation dans le futur d'un désir d'enfant qui est déjà présent. C'est pas un coup de tête qui fait qu'on va faire un enfant toute seule ou qu'on va préserver ses ovocytes. C'est l'idée que il faudrait que, même tardivement, le projet d'avoir un enfant, de faire une famille, d'être parent, puisse se réaliser. C'est-à-dire, ce sont pas des candidates à la maternité célibataire. Même si quelques-unes, au bout du compte, à 38 ans, n'auront pas de conjoint et finiront par récupérer leur ovocyte et à se résoudre à être des mères solo. Mais l'idée, c'est plutôt de mettre au froid ses propres ovocytes pour pouvoir concevoir avec ses propres moyens quand on aura un conjoint.
Dominique Mel, c'est donc pas une question de mener à bien sa carrière ?
Non, absolument pas. Bon, d'abord parce que il y a beaucoup de femmes qui mènent leur carrière et qui ont des enfants, mais tardivement. Celles qu'on rencontre qui le font sont de catégories sociales assez élevées. Hein, parce que, d'abord, elles ont un niveau culturel suffisant pour savoir qu'est-ce qui se pratique, où ça se pratique, comment ça se pratique. Et elles ont des ressources financières suffisantes pour se payer un voyage et une intervention médicale qui n'est pas excessivement lourde, mais enfin qui vaut plus que le SMIG. Hein. Et ces femmes-là, elles sont déjà dans le boulot. Hein. Celles que j'ai rencontrées, elles sont pas en recherche de boulot, elles ont fini leurs études. Donc c'est plutôt l'absence de situation conjugale qui permettrait de faire un enfant ensemble qui les fait se retrouver seules à 37-38 ans face à leurs conditions physiologiques.
Est-ce que faire congeler ses ovocytes, ça veut dire ne plus avoir cette pression de l'horloge biologique ?
Oui, oui. C'est lancer un défi à l'horloge biologique, c'est-à-dire dire, bon, ben voilà, ma capacité procréatrice décroît ou m'abandonne, et je la restaure avec une aide médicale. Donc oui, c'est un combat contre le diktat de l'horloge biologique. Et d'ailleurs, toutes parlent du diktat de l'horloge biologique. Diktat, elles emploient ce mot.
Señoras y señores, a consenso, por favor, su vuelo 1128, destino Madrid, está listo para su embarque.
Nous nous retrouvons ce matin à l'aéroport d'Orly, départ pour Madrid avec Anne-Sophie. Dans quelques jours aura lieu le prélèvement de ses ovocytes. Ça fait 2 semaines maintenant qu'elle a passé sa première échographie et qu'elle suit le processus de stimulation hormonale. Vous vous sentez comment ?
un petit peu stressée et un peu impatiente.
Est-ce que vous avez l'impression de partir faire quelque chose d'illégal ?
J'ai bien compris, oui, que c'était illégal, oui, quand il a fallu que je cours après les ordonnances auprès de mon médecin généraliste, de ma gynécologue, ça complique tout. J'ai juste eu l'impression, effectivement, de faire quelque chose, il fallait du courage, voilà, de la ténacité, parce que sans ça, je pense que j'aurais vite laissé tomber.
Nous sommes chez Procreatec, une clinique privée du nord de Madrid spécialisée dans la fertilité. Nous y avons rejoint Anne-Sophie qui vient rencontrer pour la première fois la médecin espagnole qui la suit à distance. Des cliniques comme celle-ci, il en existe plusieurs dizaines en Espagne. Les femmes françaises peuvent aussi partir en Grèce, en Belgique ou en République tchèque pour faire congeler leurs ovocytes. Dans son livre « Et toi, tu t'y mets quand ?», la journaliste Myriam Levin estime qu'elles sont à peu près 1 000 000 à avoir fait ce voyage en 2017.
Ça va bien.
Non, je suis stressée là.
Pourquoi?
Bah, je sais pas, là, d'être là, je sais pas, ça fait bizarre, je connais pas l'endroit.
Oui, bon, maintenant.
Puis je commence à comprendre que je ne suis pas en France, je ne suis pas chez moi.
Oui, voilà, j'imagine c'est un peu bizarre.
Ouais, c'est un peu bizarre, ouais. Oui. Ouais.
Mais bon, soyez tranquille parce que maintenant, la plupart du traitement c'est déjà fait.
Ouais.
On va faire les contrôles, on va s'assurer que vous êtes bien prête pour la ponction, et en fonction de ça, on décidera exactement le moment à faire la ponction.
D'accord.
D'accord. Pour savoir qu'on aura le maximum de vos sites possibles avec cette ponction.
Ok.
Alors, on va faire l'échographie.
Oui, d'accord.
Vous pouvez laisser vos affaires là-bas et vous venez avec moi.
Alors, vous pouvez vous asseoir et vous mettez maintenant une jambe de chaque côté.
Très bien, alors, vous êtes prête? Alors, je vais vous expliquer comment on va faire pour la ponction vendredi. D'accord?
Parce qu'ils ont le temps de grossir encore?
Oui, ils vont grandir encore un petit peu, mais on a déjà plus de 3 follicules qui mesurent plus de 17 mm, et c'est la mesure qu'on utilise pour savoir qu'ils sont vraiment déjà matures, et c'est pour ça qu'on peut déjà programmer la ponction.
Super!
Très bien, alors vous pouvez vous habiller. Et je vais vous expliquer comment vous allez faire pour aujourd'hui. Et
ouais.
Ça va être prêt pour vendredi.
Ok.
Je suis Alexandra Izquierdo. Je suis médecin chez Procreatec il y a déjà 6 ans. Je fais de la médecine de la reproduction pour les patients qui ont des problèmes de fertilité, pour les patients espagnols, mais aussi pour aider des patients qui vivent d'autres pays en cherchant des traitements qui ne sont pas disponibles dans leur pays.
Qu'est-ce que vous proposez aux femmes comme Anne-Sophie quand elles viennent vous voir ?
Quand elles nous contactent pour préserver la fertilité pour le futur, on doit leur expliquer un peu les chances de réussite dans le futur. Si on a entre 10 et 12 ovocytes gardés, elles peuvent s'attendre d'avoir une grossesse avec 50% de chances de réussite dans le futur. Si on arrive à avoir 20 ovocytes, ça peut le permettre d'avoir entre 75 et 80% de chances de réussite. Ça n'empêche pas l'implantation des embryons après. Il n'y a pas d'anomalie aux embryons qui sont liées à l'effet de la congélation des ovocytes. Et en général, les ovocytes résistent très bien à ce processus de vitrification.
Est-ce que vous prenez tout le monde ou est-ce que ça vous arrive de refuser des patientes ?
On ne refuse pas de patients. On explique les patients les chances. Il y a des femmes plus âgées pour lesquelles on recommande de ne pas faire les traitements pour les chances de réussite. Mais c'est vraiment à elles de décider si elles veulent garder les ovocytes, même si elles sont en âge un peu plus avancé. À partir de 40 ans, les chances d'avoir un bon résultat après sont beaucoup plus limitées. Comme ça, on ne recommande pas trop de faire ces traitements à partir des 40 ans, mais on les fait.
Depuis que vous proposez cette congélation des ovocytes, est-ce que certaines femmes sont venues récupérer leurs ovocytes ?
Il y a des femmes qui ont déjà fait des traitements pour récupérer les ovocytes, tout à fait. On a des cas où ça s'est bien passé, on a d'autres cas où malheureusement les résultats n'étaient pas positifs. Ces taux de réussite, je vous dirais, ça pourrait être environ 50% des femmes qui viennent récupérer leurs ovocytes ont des grossesses.
Interception.
Bonjour.
Le magazine de la rédaction.
Vous voulez qu'on se mette dans mon bureau ?
Nous sommes de retour en France, à Paris, pour rencontrer le professeur Jean-Philippe Wolf du service de biologie de la reproduction de l'hôpital Cochin. Il met en garde les femmes qui font congeler leurs ovocytes pour avoir un enfant plus tard.
Alors, je vais vous dire très sincèrement, je serais une femme. Sachant ce que je sais sur la fertilité et sur la qualité des ovocytes, j'irai faire congeler mes ovocytes. Pour autant, c'est pas une solution véritablement fiable. Un ovocyte dans notre laboratoire, c'est 4,5% de chance d'avoir un bébé. On parle pas d'avoir un embryon, on parle pas d'avoir une grossesse, c'est d'avoir le bébé né au bout des 9 mois. 4,5%. Chez une femme jeune, une femme en dessous de 35 ans. Donc si vous congelez vos ovocytes, très bien, mais voyez combien d'ovocytes il faut congeler pour avoir une chance raisonnable d'avoir un bébé. Donc, ce dont j'ai peur, c'est que il y a toujours des gens pour faire miroiter des solutions. Vous allez être tranquille, mettez votre avenir de côté dans votre poche, mettez vos ovocytes au laboratoire ou dans les containers de congélation. Mais c'est pas du tout une garantie. Il faut que les femmes le sachent, que la garantie est extrêmement faible, somme toute.
Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, dans le système actuel où c'est illégal en France de faire congeler ses ovocytes hors raison médicale, il y a des cliniques à l'étranger, privées, qui jouent là-dessus, sur le côté mercantile?
Ah oui, tout à fait. Ça, oui, c'est une évidence. Toutes les cliniques en Espagne sont organisées en réseau à succursales multiples. Elles vont dans le monde entier. Hein. Enfin, elles sont espagnoles, mais elles sont partout où il y a la possibilité légale de développer leur activité. Et c'est un business qui est très, très, très juteux. C'est même associé au fait qu'on peut acheter aussi des ovocytes de donneuses dans ces circuits de cliniques, qui sont souvent achetés auprès d'étudiantes, de femmes relativement pauvres, des personnes venant de Grèce, d'Ukraine, etc. Je veux dire, la carte du don d'ovocytes dans ce genre-là, c'est la carte de la pauvreté dans le monde, quoi.
Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il faut légaliser cette congélation des ovocytes en France ?
Je crois que ce serait une très bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, c'est la seule solution qui existe. On sait que la qualité des ovocytes décroît régulièrement avec l'âge de la femme. Et l'on sait par ailleurs que quand on congèle l'ovule, on garde les caractéristiques de l'ovule à l'âge de la femme où il a été congelé. C'est-à-dire que si vous transférez chez une femme de 40 ans un embryon qui a été fait avec un ovule d'une femme de 25 ans, voire même avec son propre ovule, pourvu qu'il ait été congelé à 25 ans, vous avez la même chance d'avoir un bébé que si la femme avait 25 ans. Donc, je crois qu'il faut le faire. Il faut que les femmes puissent choisir. C'est très bien que les femmes puissent choisir pour elles-mêmes de leur fertilité, aujourd'hui et demain. Il faut simplement qu'elles le fassent en connaissance de cause, qu'elles ne se laissent pas abuser par des laboratoires ou des cliniques qui leur feraient miroiter qu'il sera toujours temps demain de faire le bébé avec les ovules qu'on aura congelés. Encore une fois, chez une femme jeune, fertile, un ovule a 4,5% de chance de donner un bébé. De donner un bébé né au bout des 9 mois de grossesse. Donc, vous comptez un petit peu le nombre d'ovocytes qu'il faut pour avoir un bébé.
Une vingtaine.
Pour un bébé, il en faut une vingtaine. Alors, il ne faut pas vouloir une famille nombreuse non plus. Hein.
Je me suis.
Tout à l'heure.
Nous sommes vendredi, de retour chez Procréatech avec Anne-Sophie pour la ponction de ses ovocytes. C'est une opération qui doit durer à peu près une vingtaine de minutes et qui se déroule sous une anesthésie générale légère. Ça y est, la ponction est terminée. On va retrouver Anne-Sophie dans le box où elle attend après s'être réveillée.
Donc on a récupéré 22 ovocytes de la ponction. Donc on verra dans la journée s'ils sont matures ou pas et s'ils peuvent être vitrifiés. Et je vous confirmerai à ce moment-là par téléphone. D'accord ? Et d'ici une semaine, 10 jours, et le retour des règles, donc ça voudra dire que tout est revenu à la normale. D'accord ?
Ok.
Ça va ?
Bon, ouais, complètement dans le gaz. J'ai eu un mal fou à sortir de cette anesthésie, mais ça va. Je sens déjà la différence. J'avais le ventre très, très lourd. Et en arrivant, enfin, je sentais que ça avait pris beaucoup de place. Et là, déjà, je me sens mieux. Ouais, je sens qu'il y a des choses qui sont parties.
Vous êtes soulagée, contente ou juste fatiguée ?
Je suis juste crevée. Je crois que je serai soulagée quand je saurai exactement combien pour être congelée.
Oui.
Parce que je sais que voilà, il y a forcément des pertes ou enfin en tout cas certains qui sont pas utilisables.
Oui.
Mais si j'ai bien compris, la bonne moyenne, on va dire, c'était une douzaine.
Oui. En dessous de 10, et en général, on recommande aux patients de refaire un cycle. Parce qu'il faudra en avoir entre 10 et 15 pour avoir de bonnes possibilités après pour la suite.
Ah ouais, je serais pas prête à recommencer, je crois.
Oui. On sentait la fonction, c'est pas non plus le meilleur moment.
Oui, oui, je sais bien, je dois pas être très, très lucide encore, mais merci en tout cas.
Mais je vous en prie.
Ça fait un peu bizarre parce que finalement, je me rends compte que c'était un peu le parcours du combattant pour l'instant, que ça change pas grand chose à ma vie. J'ai échangé ces derniers jours avec une amie qui a vécu la même chose, mais pour une FIV. Donc elle n'avait aucun souvenir des effets secondaires parce que elle était tellement impatiente de tomber enceinte que finalement elle ne se souvient que de ça, que du moment où on lui annonçait qu'elle était enceinte, alors que moi ça va rien changer à ma vie pour l'instant. Je serai déjà soulagée quand elle me dira combien on peut en congeler, parce que si c'est moins de 12, franchement je me vois pas recommencer quoi. 2000 euros de plus, non, j'ai trouvé ça galère. Après, j'en sais rien, si ça se trouve, si un jour c'est autorisé en France, je referai, mais en France, quoi.
Anne-Sophie a finalement pu préserver 15 de ses ovocytes. Ils l'attendent désormais congelés à Madrid. Elle n'aura donc pas besoin de répéter l'opération en France si la loi autorisait l'autoconservation des ovocytes pour toutes les femmes. Une loi qui doit être soumise au vote du Parlement d'ici l'été prochain. Nous nous rendons à l'Assemblée nationale pour y rencontrer Xavier Breton. Il est député Les Républicains et il a présidé la mission d'information sur la révision des lois de bioéthique.
La question de l'autoconservation des ovocytes, d'abord, c'est aujourd'hui autorisé dans notre pays de manière limitée, puisque c'est dans le cas d'une maladie que rencontrerait la femme et qui, par précaution, entre guillemets, pourrait prélever des ovocytes. Il y a un deuxième cas qui est prévu également lorsque la femme donne des ovocytes, eh bien, au-delà du cinquième, la possibilité qu'elle puisse en prélever pour elle-même. Donc, on est dans des conditions qui sont assez encadrées. Est-ce qu'on doit aller à un droit qui soit, d'une certaine manière, illimité? Je pense que ça pose une question. Si c'est uniquement une technique qu'on utilise en fonction de ses désirs, on peut le comprendre, cette demande individuelle. Mais au niveau de la société, je crois qu'il faut qu'on fasse très attention aux conséquences de telles pratiques si ça devait s'élargir. Aujourd'hui, on voit autour de nous des pays où la pression économique est très forte pour cette autoconservation des ovocytes. C'est-à-dire que c'est le système économique, le système capitaliste qui dit aux femmes, écoutez, il y a des périodes où vous êtes en pleine activité professionnelle, on a besoin de vous, c'est pas le moment d'avoir des enfants, on a une technique, mettez des ovocytes, et c'est même nous qui vous les payons. Ça existe aux États-Unis. Alors si on dit, il faut faire comme dans les autres pays, est-ce qu'on va faire ça chez nous ?
15 octobre 2014, sur la chaîne américaine NBC News.
Apple and Facebook appear to have become the first
beg American companies to pay for women who elect to freeze their eggs.
Il faut que nous prenions en compte cette pression économique et puis également faire attention à la pression sociale qui consisterait eh bien, à déconnecter une grossesse, déconnecter l'accueil d'un enfant d'une vie réelle qui est celle de la rencontre avec un partenaire qui est ensuite fondée sur l'amour, l'éducation et avec un rythme qui s'inscrit dans une écologie naturelle. On voit bien aujourd'hui qu'on est en train d'avoir uniquement des techniques qui sont au service d'individus, qui sont déconnectés les uns des autres. Moi, ça m'interroge sur l'évolution de notre société.
Si cette loi est acceptée, si l'autoconservation des ovocytes est autorisée en France, est-ce que vous pensez qu'il faut des garde-fous et lesquels ?
Bien sûr, il y a des questions d'âge qui vont se poser. Jusqu'à quel âge peut-on avoir une grossesse ? Ça pose des questions à la fois physiologiques, mais également en termes de rapport entre les parents et l'enfant. Si on est uniquement sur le seul désir d'individu et d'une technique qui sera à disposition sans condition, moi personnellement, je n'y suis pas favorable. Encore une fois, je crains qu'on soit uniquement sur une logique de droit et d'égalité, mais qui ne prend pas en compte la place, effectivement, de l'homme par rapport à des techniques. Mais je crois qu'on ne rend pas heureux des personnes en leur faisant croire qu'il y a des techniques qui vont leur permettre de dépasser, s'affranchir complètement de ce qu'elles sont dans leur réalité, c'est-à-dire dans leur réalité corporelle.
On termine cette émission avec une femme qui a fait congeler ses ovocytes il y a près d'un an. Cécile, elle a 37 ans, elle a été opérée en Espagne et cette congélation est loin d'avoir tout réglé.
Quand je me suis réveillée de l'anesthésie générale et que j'ai demandé combien j'en avais et que la gynécologue m'a répondu 8, j'ai été très déçue. Finalement, ça m'a un peu mis la pression, contrairement à ce que je croyais, ça m'a pas du tout détendue. Je me suis dit, bon, j'ai peut-être un problème de fertilité, faut pas que je traîne, 8 c'est pas beaucoup, faut peut-être que je le refasse. Mais comme moi j'ai eu beaucoup d'effets secondaires pendant le traitement, j'avais pas très envie de refaire une session. Et en fait, très vite, j'ai commencé à me renseigner sur la PMA, toute seule. Et au mois de novembre, je me suis mise sur Tinder un peu en me disant, allez, une petite dernière fois, je retente ma chance et puis au mieux, je passerai un bon moment avec un mec et puis au pire, c'est pas grave, de toute façon, je suis lancée dans mon projet et je passerai à autre chose l'année prochaine. Et j'ai rencontré un garçon, un mec vraiment bien et donc je ne sais plus ce que je vais faire.
Est-ce que le fait de savoir que vous avez des ovocytes aujourd'hui congelés qui vous attendent en Espagne, ça change quelque chose dans la relation que vous commencez avec ce garçon ?
Un peu, je pense. Il a déjà 2 enfants en garde alternée. Il n'est pas hyper chaud à l'idée d'en avoir un troisième. Pas contre l'idée complètement, mais bon, il est déjà passé par la phase biberon, couche, réveil nocturne, etc. Il a pas forcément envie de repasser par là. On en a déjà parlé parce que moi c'est quelque chose quand même d'important pour moi et j'avais besoin d'en parler. Et évidemment, comme la plupart des garçons, il ne se rendait pas compte. Pour lui, à 37 ans, j'avais largement le temps puisque je pouvais faire des enfants jusqu'à au moins 45 ans. Et il a été un peu surpris, un peu refroidi, je pense. Le truc de la congélation des ovocytes, c'est que ça donne une petite chance supplémentaire, mais c'est quand même pas si simple, parce que les ovocytes, ils sont en Espagne. Si on décide de faire un enfant, qu'on n'arrive pas à le faire naturellement, qu'on décide de faire une PMA, ça veut dire quand même qu'on doit aller en Espagne pour faire tout le processus de PMA, qui est déjà très lourd et très compliqué quand on est en France. Donc ça veut dire qu'en plus, on doit aller faire des allers-retours en Espagne pour le faire. 8 ovocytes, au mieux, c'est quoi ? C'est 2, peut-être 3 tentatives au grand maximum. 2 tentatives, en fait, c'est pas grand-chose. Donc, en fait, plus on se renseigne sur ce sujet, plus on se rend compte que c'est une petite option supplémentaire, mais c'est vraiment pas une solution. Et aujourd'hui, je regrette de pas l'avoir fait plus tôt. Je pense qu'à 30 ans, quand j'y pensais déjà, j'aurais dû le faire, comme ça j'en aurais beaucoup plus au congélateur, de meilleure qualité, J'aurais voulu que la France me permette de le faire, parce que je sais que si je ne l'ai pas fait à 30 ans, c'est parce que ce n'était pas autorisé en France. En fait, ça me rend assez triste et je suis assez en colère maintenant que je l'ai fait, parce que je trouve que c'est pas bien de faire ça en France vis-à-vis des femmes. C'était encore les renvoyer au fait que c'est de leur faute, qu'elles n'avaient qu'à trouver un mec plus tôt, faire des enfants plus tôt, alors qu'en même temps, on nous demande d'être indépendantes, d'avoir un travail, d'avoir une carrière. C'est encore très paternaliste de la part des gouvernements français de considérer que c'est du confort, hein, parce que c'est pas du confort, vraiment.
Est-ce que vous diriez que ça vous a libéré de ce poids que pouvait être l'horloge biologique d'être partie en Espagne faire congeler vos ovocytes ?
Non, ça m'a pas libérée parce que je l'ai fait trop tard et que j'en ai pas beaucoup. Par contre, c'est bien parce que quand je me suis réveillée avec mes 8 ovocytes au congélateur, en fait, je me suis dit, c'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est un enfant. C'est pas avoir des ovocytes au congélateur.
En septembre dernier, le Comité consultatif national d'éthique s'est prononcé en faveur de l'autorisation de la congélation des ovocytes pour toutes les femmes, sous réserve d'établir une limite d'âge maximale. Les députés, eux, voteront au printemps prochain. Congélation d'ovocytes, un bébé pour plus tard, c'était un reportage de Faustine Calmel. Prise de son, Raymond Alboui. Réalisation, Violaine Ballet, assistée de Gabriel Debray. Mixage, Lucas Vaillant. Bonne journée et à la semaine prochaine.